qu'on passe à la deuxième présentation par le professeur émérite Éric David de l'ULB, du Centre de droit international de l'ULB. Présentation qui s'intitule « Les violations du droit international par Israël et la responsabilité des entreprises privées qui assistent Israël ».
Merci, Monsieur le Président. Alors, si je peux avoir l'écran pour que vous puissiez suivre plus facilement mon exposé. Voilà, ah voilà, c'est parfait, c'est gentil. Bon, je voulais vous faire un vrai PowerPoint. Et puis, au dernier moment, j'ai failli jeter mon ordinateur par la fenêtre. Et puis, je me suis dit, non, c'est un bien civil. Hein, je dois le protéger, par conséquent, surtout que c'est le mien. Et qu'en plus, il risquait d'y avoir des dommages collatéraux si un passant se trouvait malheureusement dans la rue au moment de la chute de cet objet. Et donc, j'ai fait une sorte de PowerPoint à ma façon, c'est-à-dire en utilisant un document Word pour que vous réussissiez à me suivre. Alors, vous allez voir, j'espère que c'est du choc des idées que naît la vérité. Éric de Brabander vous a dit pas de responsabilité pénale en droit international des entreprises privées. Je vais essayer de vous démontrer le contraire. Et mon exposé sera donc axé en quatre parties que vous pouvez donc suivre ici sur l'écran. Dans un premier temps, je vais d'abord donc vous rappeler brièvement les violations du droit international commises par Israël, comme vous les connaissez tous, ça pourrait aller assez vite. Ensuite, j'exposerai la manière dont les entreprises privées apportent une assistance à ces violations. Ensuite, j'examinerai les qualifications juridiques de cette assistance et je terminerai sur les conséquences juridiques de cette assistance à des violations du droit international. Alors, premier point, les violations du droit international commises par Israël. Alors, je ne vais pas faire ici une énumération de toutes les violations du droit international commises par Israël. La fin de la journée et la nuit entière ne nous le permettraient probablement pas. Je n'ai choisi trois, pas tout à fait au hasard, mais quand même. Oui, je voudrais préciser un point. Tout ce que je vais vous dire ici, au fond, c'est une question qui m'a interpellé de manière un peu incidente à la suite de la dernière session du tribunal Rossel. Le tribunal, dont d'ailleurs certaines chevilles ouvrières particulièrement actives sont présentes dans cette salle et je les salue, m'avait sollicité sur ce point. Je vous ai dit, je ne m'étais jamais posé la question dans ces termes, est-ce qu'il peut y avoir une responsabilité au regard du droit international d'une personne morale pour des violations commises par un État. Et j'ai commencé à fouiller la question et je suis arrivé à des conclusions que je vais essayer de vous faire partager. J'ai déjà rencontré les contradictions d'Éric. Hein, l'autre Éric, les deux Éric ne sont pas tout à fait d'accord sur ce point. Et alors je vais le faire à partir donc de ces trois événements qui me paraissent intéressants. C'est d'une part l'implantation systématique des colonies de peuplement à Jérusalem et en Cisjordanie, la construction du mur et les bombardements de Gaza pendant le conflit de Gaza. Alors, l'implantation systématique des colonies de peuplement, alors là, quand même, ce n'est pas un PowerPoint, mais vous voyez, c'est de l'artisanat. Hein. Donc, j'ai réussi quand même à mettre dans mon document Word, voyez-vous, une carte des colonies de peuplement en Israël. C'est tout ce qui est en... Vous avez ici mon point d'insertion. Voilà. Tout ce qui est en bleu clair, ça, ce sont des régions de la Cisjordanie qui, en réalité, sont sous le contrôle des colonies de peuplement ou des conseils de ces colonies de peuplement. Et alors, les parties brunes, ce sont plutôt les parties habitées par des Palestiniens. Et donc, voilà, ce site, c'est pour vous illustrer un petit peu le phénomène. Voilà, là, vous voyez l'ensemble de la situation sur cette carte. Et quel est le droit applicable à cette situation? Eh bien, voilà, c'est pas très compliqué, puisqu'au fond, l'illégalité de ces implantations israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, ce n'est pas quelque chose de récent. En réalité, on peut déjà trouver une source de cela dans l'article 49 de la 4e Convention de Genève. Si vous le lisez attentivement, vous direz, mais enfin, ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas vraiment d'un transfert forcé de population. Mais c'est en réalité le sens que le CICR lui a donné, puisque dans son commentaire que j'ai repris aussi, vous le voyez, où l'on dit cette clause ajoutée après quelques hésitations, je lis avec vous, par la 17e conférence de la Croix-Rouge, s'oppose à des transferts de population tels qu'en ont pratiqué pendant la Deuxième Guerre mondiale certaines puissances qui, pour des raisons politiques ou raciales, ont transféré des éléments de leur propre population dans des territoires occupés. Et donc déjà, à ce moment-là, la question est déjà considérée et on aboutit à un constat très clair d'illégalité. Mais ça va plus loin, c'est pas simplement illégal, c'est aussi incriminé. Et là, mais déjà, si vous voulez, les transferts illégaux sont incriminés de manière générale dans l'article 147 de la 4e convention. Et alors, plus précisément, si vous prenez l'article 8, paragraphe 2 du statut de la Cour pénale internationale, oui, merci, inutile de me rappeler qu'Israël n'est pas parti au statut de la Cour pénale, je le savais, merci, mais ça n'a pas l'importance parce qu'on peut considérer que les dispositions de droit substantiel du statut de la Cour pénale peuvent être considérées comme étant le reflet du droit international coutumier. C'était reconnu par un certain nombre de décisions, d'ailleurs, du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Et d'ailleurs, ces dispositions, ici je cite l'article 8, paragraphe 2, mais vous avez la même chose dans le premier protocole additionnel aux conventions de 1949 ou dans le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité fait par la Commission du droit international en 1996. Voilà ce que je voulais vous dire sur donc, l'illégalité et même plus que ça, le caractère criminel de l'implantation des colonies israéliennes en territoire occupé. Ce n'est pas seulement illégal, c'est aussi, et je mets des guillemets, c'est aussi un crime de guerre. Passons à la construction du mur. Alors, voilà ici quand même une petite illustration pour vous détendre. Eh bien, vous voyez la carte de ce mur. Si vous arrivez, non, ce n'est pas très, très clair. Désolé, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Donc, la ligne rouge est la ligne suivie par le mur. Et vous voyez comme elle s'enfonce, comme ce mur s'enfonce par moments de manière assez profonde dans le territoire palestinien par rapport aux lignes de démarcation de 1967 qui sont indiquées par la ligne verte, la fameuse ligne verte qui est d'ailleurs appelée ainsi dans l'avis de 2004. Et donc, ça pose évidemment toute une série de problèmes que vous connaissez. Voilà toujours le mur. Alors quand même ici, oui, une petite image. Est-ce qu'elle va apparaître? Mais oui, bien sûr, voilà hein, l'image du mur. Bon, vous l'avez déjà vu dans des journaux, bien sûr, ce genre d'image. Il y a des tas qui circulent sur Internet. Hein, je suppose que c'est le côté israélien du mur que l'on voit ici, hein, puisqu'on voit les gens qui peuvent rouler en voiture ou à moto à quelques mètres du mur. Bon, alors, le droit applicable au mur, eh bien, là, c'est bien sûr une violation d'un certain nombre de dispositions, violations dans le détail desquelles il n'est pas nécessaire d'entrer parce que c'est des choses qui ont déjà été dites dans l'avis rendu par la Cour, mais notamment les dispositions que je cite, qui sont des dispositions donc, du règlement de la haie, article 46, qui concerne le droit de la famille, le droit à la propriété privée, l'article 52 qui parle de l'indemnisation pour les réquisitions, l'article 53 de la 4e Convention de Genève qui interdit les destructions de biens meubles et immeubles. Il faut savoir que pour construire ce mur, bien sûr, un certain nombre de biens immeubles palestiniens ont été détruits. Et alors, c'est non seulement donc des violations du droit international humanitaire, mais aussi des violations des droits de l'homme, puisque l'article 12 du pacte relatif aux droits civils et politiques, c'est-à-dire la liberté de circulation, qui est évidemment gravement entravée pour les Palestiniens qui se trouvent à l'intérieur, entre le mur et la ligne verte, leur droit de circulation est évidemment gravement entravé, mais aussi toute une série de droits économiques, sociaux et culturels, puisque le droit au travail, le droit à la santé, le droit à l'éducation, la possibilité pour les enfants d'aller à l'école, la possibilité pour les gens de se faire soigner, d'aller chez le médecin, tout ça est extrêmement entravé par ce mur, et ce sont donc des violations des articles, je vois que j'ai... oui, ça, on ne le voyait pas bien, sorry... Voilà, sont gravement entravés par la construction de ce mur. Alors jusque-là, rien de très nouveau sous le soleil. Ce qui m'a paru plus intéressant, c'est de constater qu'au fond, dans la mesure où ces entraves où cette construction fait obstacle à l'exercice de droits civils et politiques d'un côté, économiques, sociaux et culturels, donc de droits et libertés fondamentaux, en un mot, eh bien, cela aboutit à une forme d'attaque systématique ou généralisée contre une population civile. Je reprends ici le texte de l'article 7 du statut de la Cour pénale internationale. Et ça peut parfaitement tomber sous le coup de la persécution. La persécution, là aussi, l'auteur ne me permet pas, bien sûr, d'entrer dans le détail de la disposition, mais c'est intéressant quand vous regardez la manière dont l'Assemblée des États partis a défini ce que c'est qu'une persécution. Eh bien, si vous lisez attentivement les détails des éléments des crimes, vous vous rendez compte qu'on est bel et bien là en présence d'un fait, la construction du mur, qui porte atteinte au peuple palestinien en tant que tel, pour des raisons évidemment qui sont politiques, au sens le plus large du terme, qu'il s'agisse pour Israël d'assurer sa sécurité ou pour quelque raison que ce soit. De toute façon, ce sont quand même des raisons politiques notamment qui sont à la base de la construction de ce mur. Ça fait partie d'une campagne qui peut être considérée comme certainement systématique ou généralisée contre la population palestinienne. L'auteur, de ce fait, ne pouvait évidemment pas l'ignorer. Et donc, je pense qu'il n'est pas compliqué, à mes yeux en tout cas, de conclure que c'est bel et bien là un crime contre l'humanité qui est commis par Israël, même si la Cour, il faut quand même le dire, la Cour internationale de justice, dans son avis de 2004, n'a pas été aussi loin. Là, c'est moi qui prends peut-être quelques libertés avec l'interprétation du droit, mais je n'ai pas l'impression que, ce faisant, je sollicite exagérément les textes. Alors, j'arrive alors à la guerre de Gaza, la fameuse opération Plomb durci, décembre 2008, janvier 2009. Et là, voilà, vous connaissez tous, bien sûr, les horreurs qui ont été commises pendant cette guerre, les dommages totalement disproportionnés causés à la population civile et aux biens civils. J'ai repris ici, pour le montrer, des extraits du rapport Goldstone. J'ai pris soin de montrer qu'il n'y avait pas que Goldstone dans cette mission. Il y avait aussi la professeure Shinkin, Madame Gilani, une avocate pakistanaise, Desmond Travers, un colonel irlandais, et que je sache, si Goldstone n'a pas fermement fait des réserves tout à l'heure, le professeur Michel Walbrook a très bien précisé quelles étaient les expressions que Goldstone a utilisées, non pas pour prendre des réserves, mais pour préciser certaines choses par rapport à son sentiment. On ne trouve pas, je dirais, les mêmes réactions, en tout cas, de la part des trois autres membres de la commission. Alors voilà, vous m'excuserez de ne pas entrer dans les détails de ces... je peux simplement me borner ici à vous les rappeler. Et bien sûr, des attaques de ce type sont des crimes de guerre, hein, dommages collatéraux tout à fait excessifs par rapport à l'avantage militaire concret, direct, espéré. Eh bien là, vous avez le fondement de ces dispositions, que ce soit le statut de la Cour pénale, une fois de plus, le premier protocole additionnel ou le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Voilà ce que je voulais vous dire concernant donc les violations du droit international commises par Israël. Ce qui m'amène alors à la deuxième partie de cet exposé, c'est l'assistance des entreprises privées à ces violations telles que je viens de vous les rappeler. Alors, de ce point de vue-là, eh bien, cette assistance prend des formes diverses. Il y a d'abord l'assistance aux colonies de peuplement. Il y a en effet toute une série de sociétés israéliennes, mais aussi des sociétés étrangères, qui apportent leur assistance à la fois en participant à la construction de bâtiments dans ces colonies simplement en ayant des relations économiques importantes. Je cite notamment ici, par exemple, Carmel Agrexco, qui exporte des produits agricoles, dont une partie d'ailleurs se retrouve d'ailleurs dans nos magasins. J'y ferai allusion dans quelques instants. Hein, et plus d'autres exemples, oui, pour nous autres Belges, Dexia, moi j'ai hélas des comptes chez Dexia, hein, bien, Dexia finance des colonies israéliennes de peuplement en Cisjordanie via sa filiale, Dexia Israël. Et donc, Voilà des exemples de collaboration, l'assistance à la construction du mur, eh bien, notamment les entreprises qui fournissent du ciment, Caterpillar, qui fournit des engins. Bien sûr, tout à l'heure, on a parlé de l'action contre Riwal, cette société hollandaise qui fournit aussi des grues et des engins de levage qui sont utilisés pour le mur, fait alors l'objet d'une action extrêmement intéressante qui est menée aux Pays-Bas contre cette action. Et alors, l'opération plomb durci, eh bien là, il y a l'envoi de systèmes d'armement, des équipements militaires par différentes firmes privées à Israël, matériel qui a été utilisé dans les opérations de bombardement menées par Israël. Alors, ici, il y avait une image, voilà, elle va arriver, bon, voilà, une image, vous voyez, une grue, on n'en voit pas la marque, on ne la voit pas, hein, mais enfin, c'est simplement pour illustrer mon propos. Alors, voici ici une autre image que j'ai trouvée sur un site internet, je ne vous cacherai pas mes sources. Oui, voilà. Et là, apparemment, il semble, d'après la relation entre l'image et la banque et Dexia Israël, que Dexia Israël finance ce genre d'horreur. Il n'y a pas seulement le crime contre l'humanité, il y a aussi un crime contre l'architecture. Voilà, apparemment, ils font concurrence à Torremolinos et à la Grande Motte. Bon, ben, c'est pas évidemment non plus, bien sûr, une circonstance atténuante. Hein? Alors voilà ici, hein, le genre de choses. Bon, écoutez, je n'ai pas très bien les détails, je n'ai pas le temps. Et je sais que le président est particulièrement attentif à l'heure. Donc, je continue tout de suite. Ce qui m'amène à la troisième partie de l'exposé, c'est comment est-ce que je vais qualifier juridiquement cette assistance. Alors, c'est là qu'on entre dans les choses intéressantes de cette question. Eh bien, voilà, premier point, eh bien, c'est évidemment l'assistance qui est apportée aux colonies de peuplement, crime de guerre, à l'édification du mur, crime contre l'humanité, ou à l'opération Pléon durci dans ses opérations militaires, c'est de la complicité. C'est de la complicité, et il ne faut pas chercher très très loin, hein, je ne suis pas un grand spécialiste du droit pénal interne, mais le droit pénal international nous apporte des éléments quand on regarde la définition du statut de la Cour pénale internationale, l'article 25, paragraphe 3, qui dit qu'il y a responsabilité pénale du complice lorsque, en vue de faciliter le crime, je ne sais pas pourquoi on dit la commission, ce n'est pas français, je n'arrête pas de le dire, mais ça ou chanter en l'air, ça vient au même. Bon. Donc, en vue de faciliter le crime, l'auteur, la personne apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission, il y a récidive, ou à la tentative de commission, hein, ça devient très grave, de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission. Je vais devenir vraiment très malheureux. Hein, et alors, un exemple de, je dirais, d'application de cela, eh bien, regardez ici l'acte d'accusation du tribunal, du procureur du tribunal spécial pour la Sierra Leone, lorsqu'il, son acte d'accusation dressé contre Charles Taylor, eh bien, notamment le fait qu'il ait apporté des munitions, des moyens de communication à différents mouvements rebelles en Sierra Leone, est considéré comme justifiant, comme fondant l'accusation qui est dressée contre lui en tant que complice de ces faits. Alors ça, c'est, je dirais, l'élément matériel du crime, mais alors il y a bien sûr l'élément moral, et comme vous le savez, il faut bien sûr que l'intention soit présente en l'occurrence. Et alors, en ce qui concerne ce point-là, eh bien, là aussi, on trouve la source dans le statut de la Cour pénale internationale. Il faut que le crime soit commis avec intention et connaissance. Bon, ce sont des choses assez élémentaires de droit pénal. Voilà pour la complicité. Deuxième forme de qualification de l'assistance, c'est le recel. Et oui, les biens, notamment, je pense aux biens qui sont importés, par exemple, des colonies de peuplement. Hein, je pense à des oranges qui ne viennent pas nécessairement de Jaffa. Bon, c'est là, on peut les manger, on peut les acheter. Non, même pas, c'est dans les territoires occupés. Je pense aux oranges de Jaffa, je pense tout de suite à Haïfa, mais peut-être que je me trompe. Enfin, si vous trouvez des avocats, des fleurs ou des oranges qui viennent des territoires occupés, eh bien, le magasin qui les vend, il est receleur. Il est receleur. Et le recel, eh bien, il suffit simplement de posséder ou de détenir un objet obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit commis par un tiers. Eh bien, c'est le cas, et si vous achetez ces oranges ou ces avocats ou ces fleurs, vous devenez vous-même receleur. En tout cas, à partir de maintenant, vous le serez, hein, parce que je vous ai informé, là. Hein. Donc, voilà. Mais alors, troisième forme de qualification, et à laquelle je ne m'attendais pas tellement, c'est qu'on peut aussi parler de blanchiment. Hein, voilà, j'en ai parlé l'autre jour à ma directrice d'agence. Hein, je lui ai dit, vous savez, Madame Medexia se rend coupable de blanchiment parce qu'elle détient simplement des revenus d'origine illicite, les intérêts que lui rapportent des prêts hypothécaires, par exemple, qui sont consentis par Dexia Israël à des colons qui veulent construire. Eh bien, ce sont des revenus d'origine illicite qui, étant détenus tout à fait proprement, si j'ose dire, ce n'est pas le cas, par Dexia, deviennent une forme de blanchiment d'argent sale. Et donc, là aussi, il y a matière à une qualification de caractère pénal. Ce qui m'amène alors à la dernière partie de mon exposé. Ça va, j'ai encore... je suis dans les temps.
Malheureusement, le temps est déjà...
Voilà, les conséquences juridiques, vous allez voir que ce n'est pas très long dans mon plan. La responsabilité pénale des entreprises privées en droit international public, voilà. Et Eric nous a dit qu'il n'y a pas de responsabilité des entreprises privées au point de vue du droit international. Et j'ai un point de vue inverse. Et alors, je me fonde sur plusieurs arguments. Je ne vais pas les détailler, je n'ai pas le temps. Mais je voudrais notamment relever que, par exemple, les personnes morales privées ont des droits qui leur sont reconnus par le droit international. J'ai pris ici des exemples qui viennent aussi bien de l'affaire du mur, où l'on dit que Israël devra réparer les dommages causés à des personnes morales privées du fait de l'édification du mur. Et si des droits sont reconnus, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas également dire que des obligations sont reconnues. En outre, vous avez un certain nombre de résolutions, de conventions de droit pénal international qui énoncent le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. Donc ce ne serait pas une révolution copernicienne que de reconnaître que des personnes morales peuvent aussi se voir reconnaître une telle responsabilité en droit interne. Et bien voilà, l'article 5 du code pénal belge, hein, il y a l'équivalent en droit pénal français, le permet facilement. Et alors, ne l'oublions pas, c'est que la responsabilité pénale n'exclut pas la responsabilité civile. Toute infraction pénale est considérée également comme une faute civile, qui peut donc entraîner également le droit de demander réparation. Et cela n'exclut pas non plus cette responsabilité pénale et civile des entreprises, n'exclut pas non plus la responsabilité pénale et civile des dirigeants, des gestionnaires, des mandataires de l'entreprise en question. Et alors, voilà, j'arrive à temps, je ne sais pas, ce n'est pas pour tirer en touche, mais je sais que cette image ferait plaisir à un des organisateurs de cette conférence, et donc c'est pour ce ballon de foot me paraît bien approprié pour vous montrer à la fois l'illusion que l'on peut avoir, et je fais partie de ceux qui ont des illusions, je fais partie de ceux qui ont de grandes utopies. Je suis comme Don Quichotte, hein, alors c'est pas contre des moulins à vent, mais contre ce mur, et peut-être que tout ce que je viens de vous dire fait partie du rêve, mais c'est un rêve que j'ai la faiblesse de croire fondé sur des règles que je vous ai exposées. Je ne les ai pas tirées de mon chapeau, je les ai trouvées dans les textes, vous pouvez les lire comme moi. Simplement, ce qu'il y a, c'est que les juges, jusqu'à présent, n'ont jamais été vraiment saisis de ce type de conflit. Tout à l'heure, Eric parlait de cette affaire américaine. Eh bien, je regrette, mais le juge américain, en n'appliquant pas l'Alien Tort Claims Act à l'entreprise en question, j'estime qu'il commet une erreur de droit, et j'attends avec impatience ce que diront les juges néerlandais dans l'affaire Riwal. J'espère qu'ils seront plus ouverts sur la base de ce que je viens de vous dire. Et donc, eh bien voilà, même pour ce genre de dossier, il est permis de temps en temps de rêver. Je vous remercie de votre attention. Merci.
Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur ce débat sur la responsabilité. Nous aurons donc l'occasion de revenir sur ce débat sur la responsabilité des entreprises privées.